Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Nous sommes heureux de vous retrouver sur la fréquence de la paix pour ce nouveau numéro de votre magazine qui remonte dans les temps. Un jour, une histoire s'intéresse aujourd'hui à la vie et au parcours de l'un des pionniers de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'un des proches de Patrice Emery Lumumba. Antoine Gizenga Fundji, né le 25 octobre 1925 à Mbanze et mort le 24 février 2019 à Kinshasa. Nous rendons hommage et nous parlons de ces grands personnages de l'histoire de la RDC avec Onésime Koukatoula Falache, professeur des universités avec un doctorat en économie et développement. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste unifiée en République démocratique du Congo, paru chez l'Harmattan. Et c'est depuis 2013 que vous êtes rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Et avant d'intégrer la CENI, vous avez mené entre 1983 et 2013 un riche parcours professionnel dans les entreprises privées, les administrations publiques et les ministères. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de vous comme auteur. Et surtout, vous êtes l'un des auteurs de la biographie d'Antoine Gizenga, à qui nous rendons hommage à travers ces magazines. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur l'enfance et les parcours d'Antoine Gizenga?
Antoine Gizenga, c'est Baoba, c'est grand combattant. On commence par sa naissance, j'imagine.
Naturellement.
Tout à fait. Vous l'avez bien dit, il est né le 25 octobre 1925 en Mbanze, de papa Michel Gizenga.
Mbanze, c'est dans quelle partie du pays, pour ceux qui ne le savent pas?
C'est dans la province du Kwilu et territoire des Gungu. Il est de papa Michel Gizenga, du village Kéhu, dans le secteur de Kandal. Il est de la province du Kwilu. Et la particularité, c'est que son lieu de naissance se situe dans les rayons de ce qui deviendra en 1931 l'épicentre de la révolte de Wapende.
Uh-huh.
Antoine Gizenga, les Congolais l'appellent affectueusement patriarche. Il est également connu sous les pseudonymes évocateurs de Fungi. Fungi signifie le vent.
Okay.
C'est le surnom en fait du célèbre Matemu, surnommé Mundele Fungi, qui a conduit la révolte des Bapende face à l'ordre colonial belge. C'était pour revendiquer des droits face aux injustices et aux souffrances subies. C'était aussi, on peut le dire, une manifestation de la solidarité de toute la communauté Pende.
Mmh.
En fait, on peut résumer en disant que c'était une force d'agressivité vis-à-vis du colon dominateur qui imposait sa culture et sa volonté. Bon, cette révolte de Pende est considérée par certains comme le prélude à la résistance de Gizenga.
Mmh.
Parce qu'il naît dans ce contexte-là d'une résistance contre les colons. Et bon, on dirait même pour élargir aux rébellions congolaises. Voilà donc en ce qui concerne sa naissance. Il fait ses études primaires à la mission Muhaku, puis à Kikwit Sacré-Cœur.
Uh-huh.
C'est de 1932 en 1937. Et on peut noter qu'à la mission Muhaku, il vit une première injustice des prêtres blancs, jésuites, pour une faute professionnelle supposée de son père. Et il est renvoyé de l'école en même temps que son père, qui perd son emploi.
Ah bon?
Ça, c'est à l'école primaire. De 1937 à 1944, il fait les humanités latines au petit séminaire de Kinzambi, le célèbre Kinzambi.
À Kikwit?
À Kikwit, oui. C'est à quelques kilomètres de Kikwit. Et là, je peux dire qu'il a aussi risqué un renvoi. Parce qu'il pose une question à un professeur de géographie qui est considéré comme subversive. Mais il n'est pas renvoyé. Ensuite, de 1944 à 1947, il est admis au grand séminaire de Maïdi, où il étudie la philosophie thomiste.
Uh-huh.
pour un petit rappel, la philosophie de Saint Thomas a considérablement influencé la politique et ses convictions morales d'Antoine Gizenga. En effet, la théorie de la résistance selon la pensée politique de Saint Thomas se résume comme suit. 1. Les soucis de l'unité de l'État. 2. Les soucis de la paix sociale. 3. Les soucis de la vertu des gouvernants. 4. Les rejets des régimes arbitraires. Et 5. Les rejets des régimes dictatoriaux. C'est ça qui résume un peu la philosophie de Saint Thomas. Et vous comprendrez que lorsque lui fait cette au petit séminaire de Maïdi, la philosophie thomiste, il est donc dans ces contextes-là, et je peux même dire que c'est là où il rejoint un peu la pensée de Lumumba. Je voulais même dire de panafricaniste. On peut, comme exemple, parler de son départ à Stanleyville.
Actuel Kisangani.
Actuel Kisangani, ça symbolise la résistance, donc tu vois bien que ça rejoint la philosophie de Saint Thomas. Les refus de se rendre à la conférence de Tananarive et celle de Coquilatéville, parce que là il fallait diviser les pays, il refuse de participer à ces deux conférences. Il refuse également de brader sa libération à Boulambemba. Et ensuite, pour l'unité nationale, il a combattu de toutes ses forces, toutes les sécessions, jusqu'à se rendre personnellement au front. Je note, il a été personnellement au front. Voilà donc ce qui est de son parcours. Mais s'agissant de sa vie professionnelle, il dirige une école primaire catholique à Kikwit. Ça, c'est en 1948. Ensuite, il est engagé en qualité de commis à la Banque centrale, Banque du Congo belge, mais à la succursale de Kikwit, où il est promu comme caissier. Et puis après, il est engagé à l'enseignement catholique comme enseignant et puis promu comme directeur d'école à la paroisse Sainte-Anne, ici à Kinshasa. Ça, c'est donc son parcours d'abord. Les études et ensuite sa vie professionnelle.
Alors, parlons de sa vie politique. Est-ce que la rencontre avec Lumumba s'est fait avant qu'il ne s'engage dans la vie politique active ou après?
Non, c'est après sa vie. Après sa vie professionnelle, là, il entre dans la politique.
Ok. Il est entré comment? C'est par quel parti?
Il entre dans la politique comme président du PESA, Parti Solidaire Africain. Et là, comme président, c'est un parti progressiste, avant-gardiste.
Il semble qu'il a été même sollicité pour occuper cette fonction.
Tout à fait. Il est sollicité un dimanche par Pierre Moulélé et Sylvain Kama, qui viennent le voir pour formuler la dénomination du parti. Et ensuite, présenter un programme de ces partis-là. Parce que les deux-là sont fonctionnaires, et lui, il est enseignant, et c'est pour cela qu'ils viennent les consulter pour ça. Et juste après, quand il leur donne la dénomination du parti et les programmes, ceux-ci se réunissent à son absence et les désignent comme président de ces partis. Il se trouve donc président du parti. Et voilà comment est-ce qu'il entre dans la vie active, dans la vie politique.
C'est avant l'indépendance.
Tout à fait, 1959. Alors, c'est comme ça qu'il va rencontrer Lumumba. Alors, comment est-ce qu'il rencontre Lumumba? Il les rencontre à l'occasion de la visite du ministre belge des colonies. Bien sûr qu'il entendait parler de Lumumba, Lumumba était très célèbre. Et c'est comme ça que lorsque le ministre belge des colonies vient en juin, en juin-juillet 1959, pour évaluer la déclaration royale, pour évaluer la situation politique pour l'indépendance. C'est à cette occasion que les deux hommes vont faire leur connaissance. Comment vont-ils faire leur connaissance? Parce que lorsque les ministres les invitent, ils sont invités au bâtiment administratif, l'actuelle fonction publique. Lumumba est là avec des pancartes, avec ces pancartes-là où c'est écrit indépendance immédiate et inconditionnelle du Congo, unie et indivisible. Élection pour tous, hommes et femmes. Donc il y a des pancartes de ce genre-là, avec ce courage, Et c'est comme ça que Gizenga, qui lui aussi avait les pancartes, presque les mêmes idées, je vous ai parlé de la philosophie thomiste, après, la police va confisquer d'autres pancartes. Et Lumumba va demander aux militants d'aller jusqu'au poste de la police, commissariat, police, pour réclamer ces pancartes. Et parmi les politiciens qui ont suivi, il y avait Gizenga, qui a admiré le courage de Lumumba.
Okay.
Et c'est comme ça qu'ils font leur connaissance. Par là, donc, ils sont restés attachés pour très très longtemps. C'est comme ça qu'ils rencontrent Lumumba pour la première fois. Donc, c'est au bâtiment, à l'époque on l'appelait bâtiment administratif, mais c'est l'actuelle fonction publique, à l'occasion de la visite du ministre belge des colonies.
Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en cours de diffusion, vous écoutez Radio Okapi qui vous propose son magazine Un jour, une histoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la vie et au parcours de l'un des pionniers de l'indépendance de la RDC. Nous parlons donc de Antoine Gizenga Fundji. C'est Baoba qui nous a quittés le 24 février 2019 à Kinshasa. Eh bien, nous revisitons sa vie avec l'un des auteurs qui a parlé de lui. Il s'agit donc du professeur Onésime Kukato Lafalache, professeur des universités et auteur de l'ouvrage Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste et une fille en RD Congo. Parmi les rencontres qui ont marqué la vie d'Antoine Gizenga, professeur Onésime Kukato, là, il y a aussi cette rencontre avec Laurent Désiré Kabila, quelques années plus tard.
Oui, oui, c'est vrai. Vous avez complètement raison, parce que la rencontre entre Gizenga, Antoine et Kabila s'effectue en deux étapes. La première étape, c'est lorsque Kabila, Moïse Kabila, fait partie de la jeunesse des Baloubakate de Jason Saint-Louis. Alors, c'est quand les Lumumba, Gizenga et les autres nationalistes lobobistes luttent pour l'indépendance et l'obtiennent, ils forment le tout premier gouvernement. Laurent Désiré Kabila est loin de ces méandres-là du pouvoir, puisqu'il est dans la Jebakate. Jebakate, donc jeunesse des Baloubakate de Jason. Alors, c'est après l'assassinat de Lumumba que les deux hommes se rencontrent pour la toute première fois, en mi-mars 1961, à Stanleyville. À ce moment-là, le jeune Kabila, Moïse, je veux dire, fait partie d'une délégation envoyée par Prosper Mwamba pour rencontrer Gizenga. Donc, c'est pour la première fois que Moïse Kabila rencontre Antoine Gizenga. Quand Prosper Mwamba, qui était le patron des Baloubakate, envoie une délégation pour rencontrer Gizenga, parce qu'ils sont tous des nationalistes. La deuxième rencontre entre Antoine Gizenga et Kabila, c'est dans les maquis à Ewabora, où Gizenga a séjourné du novembre 1973 au 1er mars 1974, soit 5 mois. Et comme détail, lorsque la jeunesse Baloubakate part rencontrer Gizenga avec son gouvernement au Stanleyville, Kabila bénéficie d'une bourse de courte durée pour l'Europe de l'Est. À cette occasion-là, ça c'est la première. Mais la deuxième maintenant, c'est Gizenga qui se rend dans les maquis. Il parcourt, fait 80 km par pirogue, aller-retour, pirogue, oui, non motorisée, et c'est là où il va rencontrer, parce que là, il est déjà en exil. Il est en exil, il passe par Kigoma, de Kigoma, il va entrer.
Avec un nom d'emprunt.
Oui, avec un nom d'emprunt, oui, tout à fait. Avec un nom d'emprunt, et le nom, quand je parlais avec lui, je lui ai posé la question, lui-même s'appelle, c'était Ngemba Passi.
Qui veut dire en français?
Et c'est lui-même qui explique. Il dit Ngemba Passi signifie pour avoir la paix, il faut souffrir. Bref, la paix est difficile à obtenir. Donc c'est comme ça que Gizenga est dans les maquis de Fizi avec Laurent Désiré Kabila, avec ses passeports-là. Zairo maintenant, c'est ça, parce qu'il est allé en exil.
Oui.
Alors il attrape un passeport Zairo. Mais il met un autre nom, parce que Gizenga, ça ne pouvait pas passer. Et le nom, c'était, le prêtre nom, c'était Ngemba Passi.
Voilà.
Voilà donc comment est-ce que Gizenga rencontre d'abord Lumumba, et puis comment il rencontre Laurent Désiré Kabila.
Alors Gizenga qui s'est retrouvé aussi dans le tout premier gouvernement du Congo après l'indépendance, mais il y a eu les élections qui ont été organisées avant l'indépendance où Gizenga a parcouru une bonne partie du pays en utilisant les différents moyens de transport.
Tout à fait. C'est en fait la bonne leçon pour la campagne électorale.
Mmh.
Ces élections-là, Gizenga, qu'est-ce qu'il fait? Il est président du PSA, il est à la tête de la délégation. Et il va à la campagne électorale pour les élections de mai 60.
Uh-huh.
Il part de Léopoldville à l'époque, le 19 mars, à destination de Kikwit. Là, il prend l'avion. Ensuite, Gizenga et ses compagnons vont parcourir l'itinéraire suivant, par route. Je note.
Uh-huh.
Kikwit. De Kikwit, ils vont à Tango, à Chebe, comme on appelle. De Tango, ils passent à Bulungu. Bulungu, mission Vanga, Massimanimba. Kenge, mission Ngi, Baningville, Dima, il rentre par Baningville pour ceux qui connaissent le coin, Kikwit, Fesh, Kasongolunda, Panzi, Kaemba, Ngunda, donc Mukoso, mission Kisanji, Gungu, Kandal, Kondo, Kitangwa, Port Franchi, Brabanta, Idiofa et Kikwit. Mais là, ils prennent maintenant l'avion pour Léopoldville. À partir de Kikwit, ils reprennent l'avion pour préparer les listes électorales, si je peux dire ainsi. Alors, parcourant ainsi pendant 3 semaines, dans une petite voiture, sur des routes et des pistes sablonneuses et incertaines. Et au total, c'était 3500 kilomètres. Ils ont traversé 30 bacs, une trentaine, 31 je pense, 31 ou 33 bacs, et plus de 100 ponts pour préparer les élections qu'il va remporter, avec évidemment son parti PESA. Et c'est comme ça que le PESA va remporter 13 sièges au Parlement, après le MNC Lumumba, qui en avait 34.
Et c'est ce qui fera de lui membre.
C'est ce qui fera de lui membre du gouvernement et vice-premier ministre de ce premier gouvernement-là.
Avec donc, Pierre Moulelé comme ministre aussi de l'éducation.
Avec Pierre Moulelé comme ministre de l'éducation. La moralité de cette campagne, c'est que les élections se préparent. Regardez comment ils traversent. À l'époque, c'est des bacs, c'est des ponts.
Avec tous les risques possibles.
Avec tous les risques. Et regardez le nombre de villages et de villes qu'il a visités avec toute sa délégation. Et c'est comme ça qu'à l'époque, la campagne était préparée. Et les résultats prouvent qu'il y a eu préparation et c'est comme ça qu'il va devenir vice-premier ministre.
Un jour, une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteur de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Professeur Onésime Koukatoula est notre invité dans ce magazine Un jour une histoire que vous venez à peine de prendre en cours de diffusion, si vous venez à peine de nous rejoindre sur la fréquence La Paix. Radio Capi, Un jour une histoire, braque ses projecteurs sur la vie et le parcours d'Antoine Gizenga, l'un des pionniers de l'indépendance de notre pays, l'un des grands personnages de notre histoire, et nous parcourons l'histoire de sa vie. Nous remontons dans les temps avec notre invité, le professeur Onésime Koukatoula, auteur de l'ouvrage Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste unifiée en RD Congo. Alors, si on doit parler du combat d'Antoine Gizenga, qu'est-ce qu'on retient?
Le combat, ça, c'est un combattant. D'ailleurs, j'intitule ça comme le parcours d'un combattant. Son combat commence dès qu'il s'engage en politique en mars 59. Déjà, le 4 janvier 59, tout le monde le sait, le meute violent à Léopoldville à la suite des meetings d'Abaco, que tout le monde connaît l'histoire, interdit par le pouvoir colonial, c'est ça en fait, on peut dire, le déclencheur de son combat. Ensuite, ça sera au mois de mars 59, où Gizenga reçoit la visite, je l'ai dit, de Pierre Mouléré et Sylvain Kama pour solliciter son aide pour créer les partis politiques et les programmes. Et c'est comme ça qu'il s'engage définitivement en politique. C'est le début de son combat, parce que c'est là où il commence la politique, début du combat politique contre l'ordre colonial et, je peux dire, l'impérialisme, pour l'indépendance du Congo. Son combat, c'est pour l'indépendance du Congo. Alors, je m'en vais vous donner quelques exemples pour son combat pour l'indépendance. Le 2 décembre 59, en compagnie de Joseph Kasavubu, de Albert Kalonji, Simon Nzezalando, Cléophas Kamitatu, ils se rendent à Bruxelles pour les discussions sur l'indépendance. Alors, face aux tergiversations des Belges, Gizenga choisit de se rendre seul en Europe de l'Est, l'Europe socialiste. À l'époque, nous sommes au moment de deux blocs, l'Allemagne de l'Est, puis l'URSS, pour chercher l'appui, et il ne regagnera les pays que le 2 mars 60. C'est ça qui explique son absence.
Ok.
À la table ronde
pendant plusieurs mois.
Voilà, qui s'est tenue du 20 janvier au 20 février 60. Donc, ces temps-là, lui, il est parti chez l'appui de ces pays-là, du bloc de l'Est, pour créer un peu le contrepoids. L'autre combat, c'est le retour à la légalité. Ça, c'est son combat de tous les temps. Il est parti à Stalinville. Pourquoi est-ce qu'il part à Stalinville pour cette rébellion-là? C'est lorsque il s'installe, il installe le gouvernement, lorsque Lumumba est révoqué. On s'est tué le 5 septembre. Le gouvernement qui était issu des élections, donc un gouvernement légal et légitimité, Gizenga n'accepte pas, rappelez-vous, de la philosophie thomiste.
Exact.
Pas de régime arbitraire, dictatorial, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que, pour ces combats-là, il n'est pas d'accord, et plus tard, en 65. Donc le deuxième, c'est le retour à la légalité. On l'a recouvré. Depuis qu'on a perdu en 65, on l'a retrouvé en 2006 avec les élections après San City. Et c'est pour cela qu'il accepte maintenant d'entrer au gouvernement, parce que c'est un gouvernement issu des élections. Philosophie thomiste. En 65, ça c'est maintenant le combat contre la dictature. Donc il y avait d'abord le combat pour l'indépendance, puis le combat pour la légalité, pour découvrir la légalité. Maintenant le combat contre la dictature. En 65, 66, 75, et plus tard, il écrit plusieurs lettres, les lettres à Mobutu, lui demandant de libéraliser la vie politique par la création d'autres partis politiques. Il y a plusieurs lettres qu'il écrit à ce moment-là, c'est comme ça qu'il est brimé, qu'il a les îles. Alors, autre chose, c'est tous les efforts pour réunir toutes les forces opposées à Mobutu. C'est aussi un combat, vous savez, Mobutu, comment il était très fort. Donc voilà quelques exemples qui peuvent expliquer les combats que Gizenga a menés pendant toute sa vie. Les arrestations, il en a connu, plusieurs, je peux te dire. Il a connu plusieurs arrestations. Je peux commencer par... D'abord, en 1954, il est emprisonné à Kikwit, puis à Léopoldville, à Ndolo, prison de Ndolo ici, pour une histoire de vol de chèques d'un client à la banque du Congo belge qui quitte. Et c'est comme ça que c'est en fait le gérant qui était blanc qui lui raconte une histoire, comme ça qu'il fabrique une histoire, et c'est comme ça qu'il est emprisonné. Il est défendu par deux avocats belges et puis libéré. Première prison, arrestation. Deuxièmement, c'est le 23 septembre 1960. Ici, il est arrêté et incarcéré avec Mpolo Maurice à la prison de haute sécurité de Luzumu. Ensuite, il est conduit à l'aéroport d'Njili pour être envoyé à Bakwanga. Bakwanga, pour les jeunes d'actuel, c'est Mbujibaye. Et puis, à Elisabethville, c'est Lubumbashi. Ensuite, ils sont libérés, in extremis, par les casques bleus marocains de l'ONUC à l'époque, c'est ce qu'on appelait.
Mais par rapport à l'ONUC, il est parmi ces Congolais qui ont plaidé au niveau international pour qu'il y ait une mission des Nations Unies parmi les tout premiers Congolais.
Tout à fait. Il est parmi les tout premiers qui avaient écrit pour demander qu'ils interviennent. Et donc, cette arrestation-là, c'est, vous pouvez comprendre que c'est, on faisait la chasse aux nationalistes. C'est comme ça qu'il est arrêté avec Mpolo pour être envoyé à Luzumu. Autre arrestation, c'est fin janvier 1962. au 15 juillet 64, il est incarcéré à la prison de haute sécurité sur l'île de Boulambemba. Là, c'est quand on les prend de Kisangani. Ça, c'est un moine à Boulambemba pour les jeunes qui ne connaissent pas où se trouve Boulambemba. Il sera libéré le 15 juillet 1964 par le premier ministre Tshombe, qui croyait, en fait, qui comptait sur Kizenga par les calculs politiques. Tshombe, qui est le premier ministre de Kasavubu, les libère et il croyait que Kizenga allait à obéir et accepter de collaborer avec lui. Mais Kizenga refuse de collaborer. Et c'est sur ces entrefaites qu'il va créer Palu maintenant.
Ok.
Que le gouvernement Tshombe va interdire d'activité. Alors, le 1er novembre 1964, Kizenga est secrétaire général du Palu. Il est assigné à résidence surveillée par le gouvernement de Tshombe. Parce que, vous comprenez bien qu'il a refusé de collaborer avec lui, mais qu'il l'a libéré, mais il refuse. Alors, on l'assigne encore à résidence surveillée par Tshombe. Mais quand est-ce qu'il sera libéré? Il sera libéré de la résidence surveillée seulement le 25 novembre 1965 par Mobutu après son coup d'État. Donc, une des premières grandes décisions que Mobutu prend lorsqu'il fait son coup d'État le 24 novembre, et le 25 novembre, il libère, bien sûr, aussi avec quelques calculs politiques, mais je vous fais grâce de ces calculs-là. Le 19 février 1966, c'est le départ en exil maintenant.
Un exil de plusieurs années. Près de 30 ans.
Près de 30 ans, 26 ans plus ou moins. Il part en exil forcé, je veux dire. Il faut être précis, c'est l'exil forcé. Car il est menacé de mort par le même pouvoir qu'il avait libéré. Parce que lorsque Mobutu le libère, Mobutu lui demande de faire une tournée dans les pays qui avaient cautionné, qui avaient donné l'aval à son gouvernement de Stanleyville, qui s'en gagnait là. Alors c'est comme ça que lui, comme il n'est pas d'accord, alors il est assigné en résidence surveillée. Parmi ces pays, je peux citer les Ghana, je peux citer l'Algérie, je peux citer, je pense, la Tanzanie. Et... alors, il refuse. Alors, à ce moment-là, il accepte, Mobutu le libère, il part pour le remercier, et Mobutu lui demande ses services-là. Il donne son accord de principe, mais avec des conditionnalités. Okay. Pour dire, si vous voulez que j'aille faire cette tournée-là, pour qu'on puisse légitimer votre pouvoir, il faut des conditions économiques et sociales, parce qu'il a lutté pour les masses déshéritées. Et pas de réponse, il commence à te visiter. En fait, il subit beaucoup de menaces, et c'est comme cela qu'il va traverser par pirogue à Brazzaville, et il va en exil forcé, qui l'a conduit à plusieurs pays.
Fin de votre magazine Un jour une histoire. Dans cette première partie, nous nous sommes intéressés à la vie et au parcours de l'un des pionniers de l'indépendance de notre pays, Antoine Kizenga Fundji. Nous avons parlé de ces grands personnages de l'histoire de notre pays avec Onésime Koukatoula Falage, professeur des universités et auteur de l'ouvrage Antoine Kizenga pour une gauche nationaliste unifiée en RD Congo, ouvrage paru chez L'Harmattan. En fait, c'était la première partie de ce magazine consacré à Antoine Kizenga. Dans une semaine, nous reviendrons sur ces personnages pour la seconde partie de ce magazine Un jour une histoire, et pour la suite, donc, sachez que nous reviendrons sur son exil, son retour au pays. Nous parlerons aussi des élections de 2006, aussi de son entrée au gouvernement de 2006, et on va chuter donc avec l'héritage politique d'Antoine Kizenga, personnage central au cœur de ces numéros de votre magazine Un jour une histoire que j'ai le bonheur de vous présenter. Je suis Jean-Marc Matouaki, Alain Goye et Bob Landou ont assuré la mise en onde. Les rendez-vous est pris dans une semaine pour la suite de ces magazines. Agréable condition d'écoute des programmes de Radio Capi. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous.